France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Pierre de Clercq, un martyr blanc kanaki. Le 19 septembre 1981, ce secrétaire général de l'Union calédonienne, le principal parti indépendantiste de l'île, est assassiné chez lui, dans la banlieue de Nouméa. Son tueur, ou ses tueurs, on ne le saura probablement jamais, ne lui ont laissé aucune chance. Immédiatement, l'archipel s'enflamme, l'aéroport est fermé, les routes sont bloquées. Dans l'Est, les caldoches sont menacées, parce que c'est un assassinat politique, cela ne fait aucun doute. Mais pourquoi tuer ce blanc qui a fini par soutenir la cause indépendantiste? Qui était ce Zorey, considéré comme un traître par nombre de caldoches, et qui est devenu le premier martyr blanc de Kanaky? Toujours est-il que ce drame marque le début d'un conflit qui fera plus de 70 morts jusqu'aux graves événements de 1988, en particulier celui de la Grotte d'Ouvert. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Djibaou, le fils de Jean-Marie Djibaou. Membre du FLNKS, le mouvement indépendantiste, il est aussi député de la Nouvelle-Calédonie, et ce depuis l'année dernière. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Vu de loin, c'est-à-dire vu de Paris, l'information ce dimanche 20 septembre 1981 ne vaut pas plus qu'une brève. Qui en France connaît le nom de Pierre de Clercq? Qui sait que ce quadragénaire est le secrétaire général de l'Union calédonienne à Nouméa? Et d'ailleurs, qui a déjà entendu parler de ce mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie? Personne à cette époque n'imagine que son assassinat marquera le début d'une longue série. Dans le journal de 13h de France Inter, la nouvelle de sa mort tombe au bout de 8 minutes, juste après l'évocation d'une bagarre entre Vietnamiens et Cambodgiens à Strasbourg.
France Inter.
Émotion en Nouvelle-Calédonie. Pierre de Clercq, le leader des indépendantistes, a été assassiné hier chez lui. Un inconnu a tiré plusieurs balles à travers une fenêtre. Il n'a pas été retrouvé. Pierre de Clercq, c'était le chef de file de l'opposition à l'Assemblée territoriale. Selon la police, il pourrait s'agir d'un crime politique. En tout cas, des manifestants indépendantistes se sont déjà descendus dans la rue pour protester contre cet assassinat. Ils ont même bloqué la dernière étape du Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie.
26 secondes top chrono. Et on n'en reparlera pas ce dimanche sur les ondes de la radio publique, et pas plus ailleurs sur les autres médias, pensez donc. C'est jour de bol d'or, jour de tempête en Bretagne aussi. Nouméa, c'est loin. Mais là-bas, à 17 000 km de ce qu'on appelle encore la métropole, c'est une toute autre affaire. L'émoi est immense, le caillou est en deuil. Du moins, une partie de ses habitants, les Kanaks essentiellement. Car c'est l'un des leurs qui a été assassiné ce samedi 19 septembre, alors qu'il travaillait dans son bureau chez lui, au Mont d'Or, dans la banlieue de Nouméa, et que son épouse, Maguit, qui avait jardiné toute la journée, s'était déjà endormie. C'est donc sur l'un des leurs qu'un homme ou plusieurs a vidé son fusil de chasse à canoncier aux alentours de 21h-21h30, 19 plombs en tout. Enfin, un des leurs. Pas tout à fait, disons qu'il avait adopté ce Zorey besogneux aux cheveux hirsutes. Zorey, c'est le nom qu'on donne sur place aux Français arrivés de fraîche date, comme à La Réunion d'ailleurs. De Clercq était là depuis une quinzaine d'années, mais il avait su gagner la confiance des Kanaks, à tel point que c'est dans l'une de leurs tribus, celle de la Conception, la plus proche de Nouméa, qu'il est enterré 5 jours plus tard, le 24 septembre. Un honneur, une rareté. Dans le documentaire signé Benoît Godin, Pierre de Clercq, un martyr kanak, Maguit, son épouse, revient sur cet épisode marquant.
C'est la tribu de la Conception qui, dès le lendemain de sa mort, a compris que cette mort, cet assassinat, ça dépassait le cadre familial. Et donc, ils ont décidé de prendre le corps. Enfin, de demander à la famille s'ils pouvaient prendre le corps et de faire pour l'enterrement comme pour un enfant de la tribu, en fait.
Adopté donc, et célébré comme on doit célébrer un camarade, un vrai. Les obsèques sont grandioses, émouvantes, dignes d'un chef coutumier. Du reste, depuis 2 ans, le 24 septembre est un jour de deuil dans le monde kanak. Ce sont les indépendantistes qui l'ont décidé. C'est la date anniversaire de la prise de possession de l'archipel par la France en 1853, au temps de Napoléon III. Le début du cauchemar pour les Kanaks. Dépossession, relégation dans les vallons, sanglante répression. Il faut donc marquer le coup. Pour Pierre et pour la cause. Alors, partout des barrages sont érigés. À Saint-Louis, Thiot, Yengen, l'aéroport est bloqué, la foire de Bourail annulée, et le tour cycliste de Lille, on l'a entendu, est interrompu. Quand le cortège qui doit cheminer le corps de Pierre de Clercq vers le cimetière de la Conception passe dans les rues de Nouméa, les magasins ferment leurs portes. Plusieurs centaines de personnes, peut-être 2000, suivent le pick-up bleu qui transporte le cercueil. Certains apportent un t-shirt blanc avec le portrait de De Clercq et cette inscription « Martyr blanc pour l'indépendance kanak et socialiste ». Les parents de Pierre sont là, évidemment, mais visiblement épuisés, car ils sont venus de loin. Ses amis aussi. Et puis il y a les chefs coutumiers, des dignitaires religieux, et même l'évêque, Monseigneur Calvé, qui ne partage pas les idées de De Clercq, bien au contraire, est là. Il y a aussi le plus haut représentant de l'État sur place, le haut commissaire Claude Charbonneau. Et bien sûr, les dirigeants de l'Union calédonienne. Roch Pitchot, le président du mouvement, qui est aussi député. Jean-Marie Tjibaou, le futur leader du FLNKS. Ou encore François Burke, une figure du mouvement et un ami de De Clercq. Écoutons-le rendre hommage à son camarade devant une foule en pleurs.
L'assassinat de Pierre de Clercq, pour nous, n'est pas une simple péripétie. Une simple péripétie qui donnerait l'occasion à des déclarations creuses. Non, l'assassinat de Pierre de Clercq nous dit autre chose aujourd'hui. Il nous dit d'abord que la structure coloniale est une réalité bien vivante. Une réalité bien vivante sur notre territoire. Il nous dit aussi que Pierre de Clercq est la victime de cette structure coloniale dans laquelle nous sommes tous enfermés.
La colère est grande dans le monde kanak. Il s'agit du premier assassinat politique sur l'île, car personne n'envisage une autre thèse. Henri Emmanuelli, ministre des Dom-Tom, le dit. Jean-Marie Tjibaou le dit. Et tout le monde le pense. De Clercq a été assassiné pour ses idées. Hélas, il ne sera pas le dernier. Dans moins de 3 ans débuteront ce qu'on appellera pudiquement les événements qui feront entre 84 et 88 près de 70 victimes. Mais que vient faire dans cette histoire cet enfant du nord de la France que rien ne prédestinait à une telle fin? Parlons-en justement de son parcours. Enfant du nord, il y a vu le jour. Il y a fait ses études aussi, une licence de sciences physiques. Il y a rencontré sa future épouse, Maguite. C'est un fervent catholique. Élevé au séminaire, il se destine à la prêtrise. Avant de changer d'avis, il sera enseignant dans le privé chez les cathos. Sauf que voilà, comme tout le monde, il doit faire son service militaire. Ce sera la coopération pour lui. Et c'est comme ça qu'il atterrit en Nouvelle-Calédonie, les hasards de la vie. Il a 26 ans lorsqu'il découvre ce confetti d'empire situé dans l'océan Pacifique, qui reste, pour bon nombre de Français, un mystère. Qui sait en métropole ce qui se passe dans cet archipel? Qui se doute qu'au milieu des années 60, on n'y vit encore comme au bon vieux temps des colonies, que les indigènes sont toujours traités comme des sous-hommes? Tout ici est dû aux Blancs, et notamment le Caldoche, ces Européens installés de longue date, venus de gré pour exploiter la terre ou les mines de nickel, ou de force en tant que bagnards. Caricature de système colonial. Écoutez ce reportage de l'ERTF. Il date de 1964, l'année justement où De Clercq découvre la Nouvelle-Calédonie. Écoutez notamment ce missionnaire blanc donner un cours d'histoire à ses élèves kanaks après leur avoir fait chanter la Marseillaise.
Vous habitez dans un pays du Pacifique. Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ancêtres. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont réellement vos ancêtres, les Gaulois?
Oui.
Vous êtes sûr?
Oui.
Comment vivaient-ils, les Gaulois?
Sauvages.
Donc, comme vous autres, hein?
Oui.
Dans quoi?
Les forêts.
Et puis encore, comment appelait-on leur maison?
Les
huttes, pas des huttes.
Caricature, vous dis-je, mais à l'époque, ça ne choque pas grand monde. Le journaliste de l'ORTF lui-même semble séduit par ce monde d'aventure, ce Far West bleu-blanc-rouge. Après avoir donné la parole à des broussards, des éleveurs de bétail qui se comparent eux-mêmes à des cow-boys, voilà comment il conclut son reportage.
La case de l'oncle Tom, voilà. Depuis tout à l'heure, je cherchais. C'est la case de l'oncle Tom que nous avons retrouvée. Une case un peu made in USA, le racisme en moins et la simplicité en plus. La France, quoi.
Sans racisme, vraiment ? Ce n'est pas l'avis de Pierre Leclerc. Lui aussi est séduit par cette île, mais différemment. D'ailleurs, une fois son service terminé, il y revient très vite après un court passage dans l'Hexagone pour finir ses études. Installation définitive, cette fois. Nous sommes en 1967, il a trouvé un poste d'enseignant dans le privé. Mais ce qui l'attire ici, ce n'est pas le monde de ces blancs qui à Nouméa vivent dans l'entre-soi et profitent du cadre idyllique. Ici, dit-on, c'est un peu la vie de la Côte d'Azur. Très peu pour lui, merci. Il n'est pas là pour profiter. Lui, ce qu'il aime, c'est se balader en brousse, aller à la rencontre de ce peuple que son pays a rejeté pendant des années quand il ne l'a pas massacré et dont les colons ont nié l'existence. Ça le mine autant que ça le galvanise. Il a des convictions et, contrairement à d'autres, il n'est pas prêt à les brader pour quelques avantages matériels. En mai 68, il écrit une lettre à Magit. Elle n'est pas encore sa femme, elle vit dans l'Hexagone, oui, on ne dit plus métropole désormais. Mais elle le rejoindra bientôt. Dans cette lettre, lue par le journaliste Benoît Gaudin, De Clercq ne cache rien de ses états d'âme.
La justice, le salaire minimum, les grèves, les indigènes qui se saoulent, les commerçants, la course à l'argent. C'est dur, c'est cru. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Les gars, 17-18 ans, les yeux secs. On n'y peut rien, ou presque rien. Notre société est mauvaise. De tels cours, ça me foutait le cafard, ou ça me rendait enragé. Enragé de rage, mais aussi de peur. Crier, remplir des amphis de slogans, d'appels à la justice, d'appels à la révolution. Mais crier fort, de peur. Car après le cri, lorsque l'amphi sera vide, que restera-t-il? La révolution est-elle accomplie avec une révolte?
N'y a-t-il
que le cri?
N'y a-t-il que le cri?
La révolution, elle arrive. C'est le temps du réveil Kalak. La nouvelle génération d'intellectuels autochtones n'accepte plus la domination. Elle ne tolère plus l'effacement de sa propre culture. Et elle ne croit plus aux promesses de Paris. De retour de l'Hexagone, où ils ont étudié, où ils sont participés parfois à la révolte de mai 68, ils prennent les choses en main. Nourris aux idéaux du marxisme et du tiers-mondisme, ils reviennent avec des idées neuves, qui tranchent avec le fatalisme de leurs aînés. Et qui choquent les caldoches, bien sûr. Comment ça? Ils parlent d'indépendance. Des mouvements radicaux voient ainsi le jour. Les foulards rouges, le groupe 1878, comme l'année de la grande révolte kanak, la guerre d'Ataï, réprimée dans le sang. Parmi eux, un certain Jean-Marie Djibaou, qui va vite se faire un nom. C'est un prêtre défroqué. En 1975, il organise le premier festival culturel kanak, Mélanésia 2000. Et il dit les choses comme il les pense, sans détour.
À toi, comité organisateur de Mélanésia 2000.
Les jeunes générations, ils ont besoin que cette parole soit dite. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des zéros. Ils vont aller à l'école, c'est bien, pour connaître l'extérieur. Mais ils oublieront la racine, parce que la racine, c'est vous. Et si vous ne faites pas connaître la racine, les enfants seront déracinés, c'est-à-dire sans racine. Et c'est grave, parce que ça débouche sur quoi? Ça débouche sur des jeunes qui sont des clochards. Des clochards au sens où on n'a pas de pied-à-terre, où on n'a pas de racines. Où on flotte, on ne sait pas ce que c'est que la coutume. On ne sait pas la faire, on ne sait pas la dire, parce qu'on n'est rien. Et ça, c'est grave. Il faut que les jeunes soient comme les cocos qui, en tombant, restent au pied du cocotier et prennent racine. Et non pas comme le coco qui flotte dans le lagon et qui ne repoussera jamais.
De Clercq aussi s'engage dans le syndicalisme, tout d'abord. Il fonde le premier syndicat d'enseignants dans le privé. Il lance également une école d'instituteurs avec celui qui deviendra son ami, Jean-Pierre Dathé. Quand ce dernier n'est pas reconduit, en 71, il est proche des foulards rouges et ça ne plaît pas beaucoup. De Clercq démissionne. Sa position dans le monde catholique, il faut dire, est difficilement tenable. Il a beau aller à la messe tous les dimanches, il ne comprend pas cette église qui défend le statu quo. Ces prêtres, tous des Européens ou presque, qui refusent de dénoncer l'oppression coloniale. Il est vrai que l'Église a joué un rôle majeur dans la conquête de l'archipel au XIXe siècle. C'est elle qui a donné ce pays à Dieu et à la France. C'est ce qu'on peut lire au fronton de la cathédrale de Nouméa, sans demander l'avis de ses habitants, bien sûr. Et en 72, ce qui devait arriver arrive, De Clercq s'engage en politique. On vient le chercher plus précisément. C'est l'Union calédonienne qui lui demande d'être sur sa liste des élections territoriales. Et l'Union calédonienne, c'était pas n'importe quel parti, ici. Il domine la vie politique depuis des années. C'est le parti de la fameuse devise « Deux couleurs, un seul peuple ». C'est l'Union, dans les années 50, des petits colons agricoles, des ouvriers et des Kanaks, tous réunis pour faire face aux riches caldoches. Oh, l'UCE ne prône pas le grand soir, ni même l'indépendance. Pas encore, en tout cas. Non, juste l'égalité et une relative autonomie vis-à-vis de Paris. Son chef se nomme Maurice Lenormand. Un oreille, lui aussi. Comme De Clercq, il a découvert la Calédonie lors de son service militaire dans les années 30. Puis il s'est installé, a ouvert une pharmacie et s'est lancé en politique. Au début, il ne demande pas l'indépendance, juste la réforme du système colonial. Mais au fil des ans, il voit bien que ce n'est pas suffisant. Voici ce qu'il en dit en 81 sur le plateau de FR3, alors que De Clercq vient tout juste d'être inhumé.
Ce qu'il y a de grave, c'est que le blanc en Calédonie, qu'il soit d'origine métropolitaine ou qu'il soit né là-bas, ne s'est jamais mis à la place du Kanak pour penser. Il ne s'aperçoit même pas qu'il vit assis sur le dos du Kanak. Et quand on lui dit maintenant qu'il faut des changements, il se met à trembler, il a peur. Il a peur de tout perdre. Mais personne ne le menace. C'est la politique de ceux qui veulent conserver leurs privilèges qui fait qu'on fait voter les gens par peur, en leur disant si les Kanaks commandaient dans ce pays, s'ils étaient majoritaires, s'il y a l'indépendance, s'il y a, avant on disait s'il y avait l'autonomie. Eh bien, vous allez faire la valise.
Pierre De Clercq voit bien lui aussi que l'indépendance est nécessaire et à terme, le pense-t-il, inévitable. En 75, quand il adhère officiellement à l'UC, l'Union calédonienne donc, le mot est dans toutes les bouches. Le PALIKA, un mouvement indépendantiste, voit le jour. Des dissidents de l'UC, des Mélanésiens pour la plupart, fondent l'Union multiraciale de Nouvelle-Calédonie et aussi réclament l'indépendance. De Clercq est lucide. Il voit bien que son parti s'encroûte, qu'il perd ses jeunes et surtout ses Kanaks. Alors avec d'autres, il va œuvrer pour le faire évoluer de l'intérieur et pour qu'il défende à son tour l'indépendance.
Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Pierre Leclerc, un martyr blanc en Kanaky.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Mai 77, commune de Bouraille, dans le centre de la Grande Terre. L'Union calédonienne a rendez-vous avec l'histoire. 6 ans que le parti n'a pas organisé de congrès. 6 ans que les plus radicaux rongent leurs freins. Alors c'est l'occasion ou jamais. La jeunesse qui ne veut plus de l'autonomie et qui réclame l'indépendance, eh bien décide à faire entendre sa voix. Alors c'est rugueux, c'est violent, parfois, mais elle finit par l'emporter. La vieille garde est mise sur la touche. D'ailleurs, beaucoup quittent le parti. Des blancs pour la plupart, qui ne veulent pas entendre parler d'indépendance. Le Normand, lui, le chef historique de l'UC, reste. Mais il n'a plus la main. Rock Pigeot, le député, est toujours là, également. Président depuis 20 ans. Tous les autres membres du bureau, ce sont des jeunes et tous viennent du séminaire. Jean-Marie Djibaou, Eloi Machoro, Yewene Yewene et Pierre Declercq, donc. Le voici secrétaire général. La même année, il est élu conseiller territorial. Le voilà au cœur du système. Sa mission, reconstruire l'UC et lui redonner un nouveau souffle. Et il est taillé pour ce poste. C'est un bosseur, un homme de l'ombre. Ce n'est pas un tribun, non, il laisse ça aux autres, à Djibaou, à Machoro. Ça saute aux yeux, ou plutôt ici, aux oreilles, lorsqu'on écoute le seul enregistrement de lui connu, retrouvé par le journaliste Benoît Gaudin. Nous sommes en 1978, au congrès de Marais.
Nous sommes, la plupart d'entre nous, de nouveaux élus. Et nous sommes un peu en apprentissage. Nous sommes des novices, et nous faisons volontiers notre apprentissage, dans le fonctionnement et le travail à l'Assemblée territoriale.
L'année suivante, le Front indépendantiste voit le jour. C'est l'alliance des différents mouvements qui demandent l'indépendance. L'ancêtre, en quelque sorte, du FLNKS. Et c'est en partie l'œuvre de Leclerc. Ce blanc-là est un redoutable organisateur et un bon négociateur, ce qui ne passe pas inaperçu. Dans son camp, bien sûr, où on loue sa force de travail, mais aussi dans le camp d'en face, chez ceux pour qui l'indépendance rime avec menace. Alors on commence à le voir d'un mauvais œil, ces oreilles incontrôlables, ce traître. On le soupçonne de monter la tête au Kanak, parce que c'est bien connu, ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. C'est mal connaître Djibaou et Machoro. C'est mal connaître Declercq aussi. Le peuple Kanak, dit-il, est capable de demander lui-même une indépendance, et il le fait. Mais personne ne veut le croire parmi les plus indécrottables colonialistes. Ici, plus qu'ailleurs, les réflexes paternalistes ont la peau dure. On montre Declercq du doigt, on le qualifie de dangereux agitateur. Il perd quelques amis et récolte beaucoup d'ennemis. Corail, le journal de l'extrême droite locale, s'acharne sur lui. Dans son édition du 23 juillet 81, l'avertissement est clair. Je lis. En ce qui concerne les colons armés, une seule remarque. Alors qu'ils sont si nombreux, comment se fait-il que Declercq soit encore en vie? La menace se précise. Son frère peut en témoigner sur France Inter au lendemain de l'assassinat.
J'ai dormi souvent dans la chambre à côté de celle où il est mort. Et une nuit, il a été réveillé en pleine nuit. Le téléphone a sonné, c'était des menaces de mort. On aura ta peau. Il disait, ils n'oseront pas. Il était très admis dans chez certaines gens. Et très haï chez d'autres.
Oui, mais ça, vous avez pu le voir?
Ah oui, bien, nous étions à la Marie Galante, un restaurant tenu par des Antillais. Nous étions 4. La tenancière nous a dit, c'est ennuyeux, il y a 25 personnes qui viennent manger, qui viennent dîner en même temps que vous, ce sera un peu brillant. Mais non, c'était un rassemblement d'extrémistes de droite. Et là, j'ai vu la haine, on était jetés dehors.
fil du temps, l'étau se resserre. Des listes d'ennemis à abattre circulent et le nom de De Clercq arrive en tête. Au début, il n'y prête pas attention. Mais au fil des mois, l'inquiétude le gagne. Désormais, il se fait escorter quand il rentre chez lui. Dans toute l'île, on se regarde en chien de faïence. Il y a ici comme un air d'Algérie. Les plus radicaux des caldoches commencent à s'armer et à s'organiser. Des tracts circulent, on peut lire ceci dans l'un d'eux. Ceux qui réclament l'indépendance sont des hors-la-loi. Dans le cas où leur faute demeurerait impunie, nous passerions à l'action. Une sorte d'OAS. En tout cas, on ne saurait être plus clair. L'arrivée au pouvoir de la gauche en mai 81 accentue les tensions. Avant l'élection, les socialistes ont pris attache auprès des indépendantistes. En 79, ils ont même signé un communiqué commun après une rencontre à Paris organisée par De Clercq, justement. Pour les indépendantistes, François Mitterrand est un allié et sa victoire une bénédiction. C'est ce que raconte l'un d'eux, Philibert Taoua, dans le documentaire de Benoît Godin.
Moi, je me rappelle surtout du jour où il a été élu, quand on a su qu'il a été élu.
François Mitterrand est élu président de la République.
S'est retrouvé à la conception. Après, on s'est retrouvé en bas sur les quais. Tout le monde chantait, tout le monde dansait. Et c'est vrai qu'on avait espéré à ce moment-là que ça y est, notre lutte était arrivée presque au bout. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On pensait que Mitterrand allait prononcer le mot indépendance, c'est ce qu'il n'a jamais fait. Mais avec Pierre, tout ça, eux, ils savaient, Pierre, ils savaient que le combat allait être dur encore.
En tout cas, au lendemain du 10 mai 81, en face, on n'est pas aussi enthousiaste. C'est peu de le dire. Pour la droite locale, et notamment pour son leader Jacques Lafleur, Mitterrand, c'est le diable. C'est sûr, il va nous lâcher, se dit-on, dans cette sphère. D'ailleurs, en juillet, deux mois après son élection, le nouveau chef de l'État reçoit Lucet à l'Élysée. Il y a là Roque Pigeot, Gabriel Païta et l'inévitable Pierre De Clercq. Les trois hommes lui remettent un manifeste et Lucet fixe un ultimatum. Le 24 septembre 82, il décrétera l'indépendance. Dans un peu plus d'un an, donc. Le mois suivant, le ministre des Dom-Toms de l'époque, Henri Emmanuelli, de passage à Nouméa, ne cache pas son malaise. La réalité l'a heurté, dit-il. Il a vu, je cite, des choses inacceptables. Quelques semaines plus tard, le samedi 19 septembre, Pierre De Clercq est assassiné. Il avait 43 ans et 3 enfants. Immédiatement, comme un seul homme, le monde kanak se soulève. Partout, des barrages, des blocages, des débrayages. À Canala, sur la côte est, la tension est grande. Dès le dimanche matin, la route est bloquée. Les Blancs sont menacés. On tire sur leurs maisons. On tue leurs bêtes. Par miracle, on ne compte aucun blessé. Une équipe de TF1 se rend sur place.
Canala est le fief des kanaks extrémistes. Récemment, des habitations de colons ont été saccagées, du bétail abattu, et pour la première fois depuis la mort de Pierre De Clercq, on a tiré, sans les atteindre, sur des Blancs.
Chevrotine ?
Chevrotine, 9 grains.
Vous vous y attendiez ?
Bah,
après tout ce qui s'était passé ?
C'est assez difficile à dire, ça. Hein. On s'y attend, on ne se sent jamais personnellement visé, hein, de toute façon. Parce que je vois pas la
vous
raison pour laquelle.
Combien de temps ?
Moi, je suis née ici.
Vous êtes née ici ?
Oui. Mon mari est arrivé, il y a 25 ans. Et il se considère comme un Calédonien.
Et aujourd'hui, vous vous faites tirer dessus ?
Oui. Pourtant, en Calédonie, il y a suffisamment pour différentes ethnies. Hein.
L'enquête ne traîne pas sur l'assassinat de Pierre De Clercq. Dès lundi, un suspect est arrêté. Un jeune homme de 20 ans, un mécanicien qu'on dit proche de Jacques Lafleur. Son nom, Dominique Canon, ça ne s'invente pas. C'est un informateur de la DST, le service de renseignement qu'il a dénoncé. Chez lui, on retrouve un fusil à canon scié, comme l'arme du crime. 200 cartouches également, du même modèle que celles qui ont tué De Clercq, et une liste de personnalités indépendantistes. Que faisait-il samedi soir ? Il n'a pas d'alibi. Il nie tout en bloc, bien sûr. Mais deux jours plus tard, il est inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Une enquête rondement menée ? Non. Car en vérité, la justice patine. Certains disent qu'elle traîne ou même qu'elle bâcle. Le juge en charge de l'instruction n'avance pas. L'expertise balistique ne permet pas de prouver la culpabilité de Canon. Elle ne l'innocente pas non plus. Alors, François Roux, l'un des deux avocats de la famille de Claire, se désole. C'est comme si on essayait d'arrêter l'eau d'un ruisseau avec les mains ouvertes, peste-t-il. Il faut dire que la pression est forte à Nouméa, et les obstacles nombreux. Le juge est menacé. On lui fait comprendre qu'un accident, ça peut arriver très vite. Un comité de soutien à Canon voit le jour, qui lance une pétition recueillant des milliers de signatures, et même une cagnotte. Surtout, il multiplie les intox dans la presse. Canon est une victime, arguent ses partisans. Le vrai coupable est à chercher chez les indépendantistes eux-mêmes, ou peut-être au niveau du gouvernement, ajoute-t-on. Face à ce déluge de ragots, mais aussi pour faire pression sur la justice, les amis de la victime lancent le comité de soutien Pierre Leclerc. Las, le 23 juillet 82, Canon est libéré après 330 jours de détention. RFO est là pour assister à sa sortie.
Dominique Canon, vous venez de passer plusieurs mois en détention, près de 10 mois. Comment s'est passée cette détention ?
J'ai été favorisé un petit peu par rapport aux autres. Parce que disons que c'était une affaire importante et ils m'ont permis de travailler quoi, au bout de 6 mois. Ça va quoi.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Je ne sais pas encore, ça dépendra des événements et puis de ce qui se passera. Quoi. Mais j'espère que la justice me dédommagera quand même, au moins pour les frais de justice et les mois de salaire. C'est quand même un minimum.
Vous avez un programme de prévu ? Vous avez pensé à quelque chose pour ce soir ?
Rien du tout. Peut-être le cinéma.
Canon est libre, mais il n'est pas pour autant blanchi. En septembre 82, un an après l'assassinat, un deuxième suspect est arrêté. Un homme de 28 ans, un certain Martin Barthélémy. On le soupçonne d'être allé avec Canon le soir du meurtre. 10 mois plus tard, il est lui aussi remis en liberté, même s'il reste inculpé. En octobre 84, c'est au tour de l'informateur des services de renseignement, Michel Capuano, celui qui a dénoncé Canon d'être inculpé. Il est arrêté à Toulon et envoyé à Nouméa. La DST est embarrassée, mais elle comprend vite le but de l'opération. C'est Yves Bonnet, le patron de la DST de l'époque, qui le dit dans ses mémoires. « La finalité, écrit-il, était de faire rétracter Capuano afin que rien ne subsiste dans le dossier. » Et ça marche. 2 mois plus tard, le dénommé Capuano est libre. Entre-temps, il s'est effectivement rétracté. Magit, l'épouse de la victime, enrage de voir l'instruction piétinée. Sabotée même. Selon elle, la justice ne veut pas retrouver les coupables. Pas plus qu'elle ne cherche à situer les responsabilités politiques. Car pour elle, c'est clair, le tueur n'a pas agi seul. 4 ans plus tard, les espoirs de la famille s'éteignent. Et c'est de Paris que vient la mauvaise nouvelle.
L'amnistie des crimes de sang liés à des motifs politiques commis en Nouvelle-Calédonie a été adoptée hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Le PC a joint ses voix à celles du PS pour faire passer le texte. L'opposition, qui a durement bataillé contre le projet de loi, a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel car elle estime que ce texte est en contradiction avec la loi référendaire du 6 novembre 88 qui excluait justement les crimes de sang du champ de l'amnistie.
Et qui dit amnistie dit fin des enquêtes. Pour cette affaire, comme pour d'autres, l'exécution de Machereau en 85, par exemple, ou encore celle des ravisseurs de la grotte d'Ouvéa en 88. Selon les socialistes, c'est le prix à payer pour retrouver la paix. Mais pour les familles, c'est un renoncement insupportable. En mars 90, un non-lieu est ordonné par la cour d'appel de Nouméa. Canon, Barthélémy, Capuano ne seront plus inquiétés, à défaut d'être innocentés. Et la mort de Pierre Leclerc ne sera jamais punie.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'assassinat de Pierre Leclerc en Nouvelle-Calédonie. Mon invité, pardon. Emmanuel Djibaou, le fils de Jean-Marie Djibaou. Bonjour.
Bonjour.
Membre du FLNKS, le mouvement indépendantiste, vous êtes député de la Nouvelle-Calédonie depuis l'année dernière. Alors, vous étiez très jeune hein, lorsque Pierre Leclerc a été assassiné. Vous aviez 5 ans à peine, j'imagine que les souvenirs sont flous. Mais votre père a-t-il le temps de vous en parler ? Comment vous en a-t-il parlé ? Je rappelle que votre père a été assassiné en mai 89.
Je pense qu'il nous a... Enfin, moi je l'ai connu, Pierre, il passait à la maison. C'était quelqu'un, je pense, de... Surtout un homme droit. La manière dont il nous en a parlé, le vieux, c'était surtout que c'était un Européen qui s'était engagé aux côtés des Kanaks dans la lutte d'indépendance, aux côtés d'un certain nombre d'autres, je pense au député Le Normand, Bourdina, et puis Burke. Et puis il a accompagné l'émergence de cette nouvelle génération de leaders, là, Éloi Machoro, Yewene Yewene. Donc c'est quelqu'un de travailleur et puis droit.
Et le fait qu'il soit européen est une dimension supplémentaire ?
Je pense que c'est surtout ça qui a été le drame de son assassinat, c'était de se dire que, de se rendre compte finalement que par jeu de miroir, ce qui était assassiné aussi, c'était la conscience de l'histoire coloniale qui refuse d'accompagner finalement la trajectoire de décolonisation qu'on souhaite pour notre pays, qui est pour nous l'indépendance.
Alors, est-ce que ça reste aujourd'hui, pour tous ceux qui se battent pour cette indépendance, de Clerc une figure de proue, une figure tutélaire, même une figure tutélaire plutôt ?
Oui, je dirais qu'encore aujourd'hui, pour les jeunes générations, quand on dit Pierre de Clerc au pays, c'est d'abord secrétaire général de l'Union calédonienne. Moi, je suis président de l'Union calédonienne aujourd'hui. Et quand on rentre dans le bureau de l'Union calédonienne, il y a une grande photo de lui avec celle d'Éloi Machoro pour dire que non seulement c'est une image, mais c'est surtout ses qualités d'ouverture qui étaient mises en avant, travailleur, et puis celui d'une indépendance qui est une indépendance ouverte à tous.
Ouais. Et pour les Caldoches, évidemment, il apparaissait comme un traître. Ça aussi, c'est une dimension supplémentaire dans la haine.
Oui, je pense que ça renvoie aussi à cette incapacité d'assumer l'histoire coloniale et puis de se dire qu'en tant que Français, porteur aussi des idéaux de libération et des idéaux de la République, on se doit d'accompagner, comme convenu dans le préambule de 1946, ces peuples vers leur libération, tous les peuples dont la France a la charge.
Et alors, manifestement, l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai n'a pas vraiment changé la donne. Quelle était la situation en Nouvelle-Calédonie en septembre 81, juste avant et pendant l'assassinat de Clerc ?
Je pense qu'à partir de 81, déjà, le front indépendantiste s'est constitué, puisqu'avant, on avait plusieurs groupes et partis qui s'avançaient pour aller demander l'indépendance. À partir de 81, avec le programme du Front commun, du Parti socialiste, du Parti communiste de marché, c'était clairement indiqué que la perspective de l'autodétermination allait être proposée aux territoires et départements d'outre-mer. Donc il y a un fort espoir qui naît à ce moment-là, quand bien même il y a eu des avancées avec Giscard sur les premières, l'agrandissement des réserves. Puisque nous, encore au pays, à l'heure aujourd'hui, on est toujours dans un système qui est né du cantonnement, de la mise en place des réserves, et qui a amorcé aussi la promotion des premiers cadres.
Qu'est-ce que vous appelez les réserves ?
Les réserves, c'est ce qui est aujourd'hui sous la dénomination de tribus, mais qu'au moment de la colonisation colonisation pénale, pour que les Européens puissent s'implanter, ce qu'on appelle la colonisation, en fait, on a cantonné les indigènes dans des réserves qui étaient délimitées et qui leur empêchaient en fait toute velléité de. On n'avait plus de droits politiques. On était assujettis au code de l'indigénat.
Avez-vous pensé un seul instant que François Mitterrand était persuadé qu'il fallait l'indépendance et qu'il allait vous la donner, ou est-ce que dès le début il y a eu un doute ?
Je dirais que les premiers échanges, puisque ça fait partie du programme.
C'est écrit noir sur blanc.
C'est écrit noir sur blanc, donc nous on a la prétention de croire que si c'est écrit, que ça va être mis en œuvre, puisque c'est pour ça que les vieux ils ont voté pour lui. Après, la réalité, ce qui a été dit à mon père et puis Pierre de Clerc, tout ça, c'est que les engagements du candidat ne sont pas ceux du président. Donc, douche froide, et puis derrière, la valse des statuts qu'on a connue par la suite.
Et allez, c'est pourrir la situation. On est arrivé aux années dramatiques de 84 à 88, avec l'instant paroxystique de la Grande Ouverte.
C'est ça.
France Inter. Affaires sensibles.
Emmanuel Djibaou, député de la Nouvelle-Calédonie, pour vous, j'imagine que cela ne fait aucun doute, l'assassinat de De Clerc est un assassinat politique.
Ça ne fait aucun doute pour moi. Ça a été, Je veux dire, la position, c'est pas une position personnelle, c'est la position de l'Union calédonienne, c'est la position du Front indépendantiste à cette époque. Et au travers de l'assassinat de Pierre de Clercq, c'est aussi l'idée d'indépendance qu'on essaye d'assassiner, comme on a assassiné Éloi Machoro, comme on a assassiné par la suite tous ceux qui se sont engagés pour la libération de notre pays. Donc oui, clairement, c'est un assassinat politique, et combien même je pourrais réfuter cette interrogation, ça a été clairement énoncé lors de la loi d'amnistie, qui, à la différence de ce qui a été énoncé, faisait valoir le fait que les événements, la séquence insurrectionnelle se tenait entre 84 et 88, l'assassinat de Pierre de Clercq, c'est 81.
Oui.
Et ça a été intégré à cette loi d'amnistie. Donc c'est bien la preuve que ce qui s'est... pour moi, c'est ce qui interroge, c'est que c'est vraiment la volonté de vouloir effacer toute velléité de faire la lumière sur l'assassinat du secrétaire général de l'Union calédonienne à l'époque.
Donc, nous sommes en 80, à cette époque, et on va écouter une archive de 1981, quelques jours après l'assassinat de Pierre de Clercq, sur le plateau de FR3. Donc, écoutons cet échange entre le sénateur Lionel Chéri, un caldoche anti-indépendantiste, ça va ensemble, et Jimmy Ounehi, un indépendantiste kanak.
Au début de la colonisation, eh bien, les Mélanésiens passaient leur temps à se battre. Si nous reprenons l'histoire, ce que la tradition orale a pu nous apprendre, il y avait autrefois beaucoup de batailles. Les Mélanésiens, depuis, ont évolué. C'est une très bonne chose. Maintenant, il n'est pas dit que si demain, d'un seul coup, nous trouvions tous livrés les uns aux autres, ces affrontements ne reprennent pas.
Monsieur Ounehi, je vous vois sourire au propos de Monsieur Chérié.
Oui, je souris parce que
c'est la risque pour l'instant.
Je voudrais dire à Monsieur Chérié que je le remercie pour les propos qu'il vient de tenir. Je veux dire que ça permet aux Kanaks de se rendre compte du mépris, de la méconnaissance de Monsieur Chérié. Monsieur Chérié, vous parlez un peu trop facilement, il me semble, de l'histoire des Kanaks en évacuant beaucoup de choses. Vous évacuez notamment tout ce qui a été fait contre les Kanaks. Maintenant, bien sûr, c'est trop facile pour vous de dire oui, on les a civilisés, on leur a apporté ceci, on leur a apporté cela. Est-ce que vous connaissez en Europe des endroits, des régions où il n'y a eu jamais eu de guerre tribale ?
Bon, c'est pas un dialogue, c'est une impasse. On est au même point 45 ans après, parce qu'on va en venir maintenant à l'actualité de la Nouvelle-Calédonie. Une question quand même, avant l'actualité. Les accords de Matignon, en 88, comment vous les avez ressentis, vous et votre camp, on va dire, dans la lutte? Il y a deux camps, il y a le vôtre et celui des caldoches.
Je dirais qu'on l'a ressenti d'abord comme un espoir de... D'abord d'arrêter la guerre, puisqu'on était dans une situation de guerre civile qui ne dit pas son nom. Les termes qu'on emploie, c'est les mêmes termes qu'on emploie en Algérie.
Les événements.
Voilà.
C'est volontairement vague.
Avec 70 morts au bout. Comment je le ressens, c'est surtout un espoir qui est donné au peuple kanak d'avancer sur une trajectoire qui est celle de se dire qu'on va s'accompagner mutuellement pour aller chercher cette volonté de s'émanciper. Donc c'est l'objet de Matignon-Oudinot, rééquilibrage, formation des cadres, et puis peut-être aussi au cœur même de ces accords politiques, la reconnaissance de l'identité kanak. Parce que finalement, dans le propos qui est évoqué dans votre archive, c'est aussi cette incompréhension qui se fait jour à ce moment-là et qui témoigne finalement d'une organisation, d'une amnésie collective menée par l'État. Et nous, on est un peuple de tradition orale, on n'a aucune honte d'assumer qui nous sommes, pour peu que l'État veuille bien, en tout cas, le système, l'idéologie en place, veuille bien jouer son rôle d'émancipateur des peuples.
Alors, venons-en à aujourd'hui. Il y a eu le boycott par les indépendantistes du troisième référendum sur l'indépendance, c'était en 2021. Puis le projet de gouvernement de modifier le corps électoral, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et a provoqué une grave crise insurrectionnelle, quasi insurrectionnelle en mai 2024, juste avant votre élection d'ailleurs. Puis de nouvelles négociations. Il y a quelques mois, un accord a été trouvé à Bougival sous l'impulsion de Manuel Valls, ministre de tutelle de cette thématique-là. Vous avez participé aux négociations, vous avez signé le document en vous engageant à le soumettre à votre base, mais depuis il est dénoncé par le FLNKS. Pour quelle raison ?
Pour la simple et bonne raison que pour nous, conformément à ce qui a été dit à l'ensemble des parties prenantes le soir où on a signé, vous le soumettez aux structures, à vos mandants, vous vérifiez la cohérence constitutionnelle de ce qui est posé, Et puis vous revenez et il y aura une ratification officielle, une poursuite des discussions, une ratification officielle qui se fera à Nouméa au mois d'août. Nous, on a rejeté le texte l'Union calédonienne, le FLNKS, parce que pour nous, les éléments de souveraineté qui sont à l'intérieur, pour nous, c'est des éléments de souveraineté de papier. Un État qui est à l'intérieur de l'ensemble national français, une nationalité qui est accolée à la nationalité française. Mmh. Je veux dire, mais c'est quelle souveraineté, ça ? C'est une souveraineté qui... c'est au une rabais. Autonomie. C'est ouais. Une souveraineté au rabais. Mmh. Alors que les perspectives qui étaient amorcées dans Matignon-Oudinot, ainsi que l'accord de Nouméa, indiquaient clairement, c'est ce qui est marqué dans le document qui est au titre 13 de la Constitution de 58, que l'État, même à la fin des trois consultations, accompagne le pays vers sa trajectoire d'émancipation. Donc c'est là où nous on dit qu'on ne se reconnaît pas dans ce document. Donc on a appliqué, et comme on l'a fait en mai, où il y avait un projet d'accord qui avait été mis sur la table, qui n'a pas recueilli les faveurs des loyalistes et des républicains, on attend encore aujourd'hui la seconde phase de négociation.
Alors, pour qu'on s'y retrouve, le gouvernement s'apprête, c'est une nouvelle information, à nommer trois personnalités dites qualifiées pour faire avancer le dossier. Alors, ça rappelle un peu le triumvirat de 88. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça peut aider ? On en est où ?
Ils sont partis, ils ont commencé les entretiens déjà aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour nous, à l'heure d'aujourd'hui, le triumvirat... Qui s'apparente dans l'imaginaire à la mission du dialogue, c'est pas du tout ça. Ce qui est la mission de ces trois hauts fonctionnaires, c'est d'amender le projet d'accord de Bougival. Moi, j'ai signé un projet d'accord, j'ai pas signé un accord, et il n'y a pas eu de signature officielle. Et nous faire rentrer dans les discussions autour de ce projet d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec la mission du dialogue qui a eu cette mission d'écoute menée par Christian Blanc, le pasteur Stewart et puis un certain nombre d'obédience, là, notamment l'Orient de France. Donc pour nous, ce qu'on demande, c'est véritablement de changer le paradigme dans lequel aujourd'hui on nous enferme dans une autonomie, en tout cas une souveraineté de papier.
Alors, est-ce qu'on peut prévoir, quand peut-on prévoir une consultation du peuple calédonien ?
Je pense qu'on peut avoir une consultation dans la mesure où on est d'accord sur un accord politique.
Oui.
On ne peut pas faire le chemin inverse. Il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle qui permette logiquement de proposer à la sanction, enfin au vote des Calédoniens. Alors d'aujourd'hui, on a inversé. On va soumettre aux Calédoniens et puis on fait la réforme constitutionnelle ensuite. Donc ce n'est pas logique.
Oui, on met la charrue avant les bœufs.
Et surtout, on précipite les choses alors qu'on a voulu... faire valoir le consensus, c'est ce qui a présidé à la réussite des accords politiques précédents.
Bien, écoutez, ce sera le dernier mot, Emmanuel Dubaou. Merci d'être passé nous voir, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Pierre Leclerc, un martyr blanc en Kanaky, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.